Nzamba.
Nzambi la samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Nous sommes dimanche 19 mai 2024. Bonjour et bienvenue à tous dans cette rétrospective de la semaine sur la radio Nzamba Gatika Kawe. Josephine Jantz-Mouzeman est à la présentation de son journal. Commémoration le 13 mai 2024 du 9e anniversaire du putsch manqué contre l'ancien président Pierre Nkurunziza. Le putsch est survenu après plus de 3 semaines de manifestations populaires contre son 3e mandat, jugé illégal et illégitime. Depuis lors, le pays est plongé dans une crise sans précédent, marquée par des tueries, des enlèvements, des disparitions et l'emprisonnement d'opposants présumés. Le rappel des faits avec Eddie Claude et Nina Adru.
C'était l'atmosphère qui régnait le 13 mai 2015 à Bujumbura avec l'annonce du coup d'état de feu président Pierre Nkurunziza. C'est le général-major Godefroy Niyombare, ancien chef des services de renseignement, qui a annoncé la destitution du chef de l'État, alors en déplacement à l'étranger. Le communiqué du coup d'État a été diffusé sur les ondes de certains médias privés.
J'ai l'honneur de vous annoncer que suite à l'insécurité qui règne dans notre pays et surtout dans notre capitale, que les frontières burundaises sont fermées, que l'aéroport de Bujumbura est fermé. Nous prions à tout homme.
Les militaires loyaux à Pierre Nkurunziza ont empêché les putschistes d'accéder au bâtiment de la radio-télévision nationale du Burundi. Cela a marqué le début des défections au sein des forces de défense et de sécurité, et des affrontements entre les putschistes et les loyalistes ont entraîné la perte des vies parmi les militaires et les policiers. Dans l'après-midi, les militaires putschistes ont attaqué la radio Rema FM qui annonçait l'échec du coup d'État. Le lendemain, les forces militaires et policiers loyales, appuyés par les Imbonerakure, ont attaqué les médias privés, les accusant d'avoir donné la parole aux putschistes, et environ une centaine de journalistes ont fini par s'exiler. Le suspense a duré un peu plus de 48 heures, le coup d'État s'étant soldé par un échec le lendemain. L'appareil judiciaire est alors devenu l'instrument de répression avec des arrestations et des emprisonnements arbitraires. Des assassinats, des enlèvements et des disparitions forcées ont été observés dans plusieurs régions du pays, ciblant principalement les opposants présumés ainsi que les anciens membres des forces armées burundaises ex-FAB soupçonnés de soutenir l'opposition.
Le coup d'État manqué a été un prétexte du pouvoir CNDD-FDD pour la répression de tous ceux qui ont combattu le 3e mandat pourtant illégal de Pierre Nkurunziza. C'est ce que déplore Maître Jean-Pierre Guilimana. Ce juriste dénonce les emprisonnements et les poursuites judiciaires qui ont suivi ce coup d'État. Écoute.
Ce coup d'État militaire a été un prétexte du régime du CNDD-FDD pour continuer une répression qui a été menée d'arrosant à l'endroit des jeunes manifestants, mais aussi à l'endroit de tous les opposants, ainsi que des citoyens qui étaient présumés comme tels. Et on a dénombré plusieurs milliers d'assassinats, beaucoup de cas de torture, de disparitions forcées, d'emprisonnement arbitraire, mais aussi on a constaté que plus de 500 000 Burundais étaient contraints de prendre le chemin de l'exil. Comme ce calvaire ne suffisait pas, on a également constaté que le régime du CNDD-FDD a manipulé la justice burundaise non seulement pour condamner des putschistes dans des conditions très misérables, dans des conditions de violation de la loi, mais aussi les principaux acteurs de la société civile, des formations politiques de l'opposition, ainsi que des journalistes, sans oublier certains officiers militaires qui avaient pris le chemin de l'exil, ont été condamnés comme des putschistes. Une condamnation qui a été faite dans la violation de la loi et dans une précipitation inouïe à travers des dossiers pénaux qui étaient téléguidés avec un esprit revanchard du régime du CNDD-FDD et dont le rôle était justement de museler toutes les voix dissidentes, plus particulièrement toute la population qui s'était levée pour contester le 3e mandat. Dans l'entretemps, on a également observé des mandats d'arrêt internationaux qui étaient purement fantaisistes et qui avaient été émis contre les leaders de premier plan dans la coordination des manifestations mais aussi dans l'opposition politique, sans oublier certains membres du parti au pouvoir au sein de FDD qui n'avaient pas soutenu ce troisième mandat, un troisième mandat de la discorde et de la honte.
La date du 14 mai 2024 faisait exactement 9 ans, jour pour jour, que d'autres médias privés, la radio RPA Bonichet FM et Sanganilo et la radio télévision Renaissance ont été détruites. Cela s'est passé au lendemain du putsch manqué du 13 mai 2015. Les 4 autres médias étaient accusés d'avoir collaboré avec les putschistes. Le rappel des faits avec Jean-Marie Darchinze.
C'était la journée du 14 mai 2015, depuis la matinée, au lendemain des coups d'État manqués, que les stations de radio RPA, Bonesha FM, Isanganiro, la radio-télévision Renaissance et la radio Rema FM ont été vandalisées ou brûlées. Elles ont été détruites par des hommes en uniforme policière, sauf la radio Rema FM, qui l'a été par des personnes non encore identifiées. Ces radios indépendantes étaient en effet accusées à tort par le pouvoir d'être proches de l'opposition et de la société civile burundaise. Ce jour du 14 mai 2015, elles vont être accusées de complicité avec les putschistes. La destruction de ces médias était de nature à les réduire au silence pour les empêcher de porter loin les contestations du troisième mandat jugé illégal de faire Pierre Nkurunziza. Les journalistes de ces médias ont ensuite subi des menaces de mort et des intimidations de la part des agents du pouvoir et des jeunes Imbonerakure jusqu'à ce qu'ils soient contraints à l'exil. C'est ainsi que plusieurs journalistes, dont des directeurs de ces médias, n'ont qu'un seul choix que de sauver leur vie, la fuite. Bien qu'exilés, ils n'ont pas baissé les bras, ils ont continué le combat pour informer le peuple burundais. Ils ont refusé d'être muselés et publié les productions en ligne.
Le pouvoir du CNDD-FDD avait depuis longtemps un plan de fermeture des médias car il craignait une presse libre indépendante. C'est ce que déclare le directeur de la radio publique africaine, l'une des radios incendiées. Boburuguri Kaneyamoa garde espoir qu'au moment venu, les médias détruits obtiendront justice et que les auteurs de cet acte devront répondre de leurs actes. Suivez.
Au fur et à mesure, le CNDD-FDD est devenu le contraste le plus absolu de la démocratie, des droits et libertés. Or, partout au monde, la liberté d'expression et de la presse constitue le socle même de la démocratie et du développement. Vous comprenez qu'avec ces deux situations, la cohabitation entre le pouvoir CNDD-FDD et une presse libre et indépendante n'était plus possible. C'est cela qui explique l'acte du 14 mai 2015, la destruction et la fermeture définitive des médias indépendants. C'est vrai que le régime avait depuis longtemps le plan de fermeture des médias, mais là, ils attendaient le moment propice pour le faire. Et malheureusement, durant ces événements de coup d'État manqués, où les médias étaient pratiquement pris entre les deux feux, ils en ont profité. Je ne voudrais pas m'exprimer sur ce que devrait être l'attitude de la justice burundaise parce qu'il n'existe plus de justice au Burundi. Quelques juges existent, oui, mais pas la justice. Bon, mais néanmoins, nous sommes très convaincus que nous aurons justice et réparation le moment venu et que les auteurs aussi de cette criminalité devront en payer.
Inzamba.
Poursuivant cette rétrospective, la Direction générale des affaires pénitentiaires a fini par avoir la peau du directeur de la prison de Mubanza. Elle vient de déchoir Diomède Gambabadje de son poste. La DGAP lui reproche d'avoir placé la journaliste Florine Irangabie dans des activités dans lesquelles cette dame se donnait pourtant corps et âme, comme lors d'une épidémie de la conjonctivite dans cet établissement pénitentiaire. Mais l'on parle également d'une main du gouverneur de la province de Mubanza dans le départ de Diomède Gambabadje, qui l'a accusé de désigner des responsables des détenus sans tenir compte des détenus. Les détails avec mon fils Niongere.
Samuel Kayanda, c'est le nouveau directeur de la prison de Mubanza. Il remplace Diomède Gambabadje. Ce dernier vient d'être démis de ses fonctions après avoir reçu le 13 avril dernier une lettre de demande d'explication de la Direction générale des affaires pénitentiaires sur la désignation de la journaliste Floriane Langavier comme membre de la commission de réception des médicaments destinés au centre de santé de cette prison. Dans cette même lettre, il lui demande comment la même Floriane Langavier a été élue présidente du groupement des agents de la santé communautaire dans cette maison pénitentiaire. Selon des sources au sein de la Direction générale des affaires pénitentiaires, la lettre adressée à Diomède Gambabadje a été antidatée par son auteur. La directrice des affaires juridiques et administratives, M. Genérèse Nionsaba, pour ne pas lui permettre d'avoir suffisamment de temps pour s'expliquer, car la correspondance lui accordait 5 jours alors que la décision de le remercier avait été déjà prise avant cette date. Des informations qui nous parviennent de cette prison affirment que Diomède est victime de sa bonne attitude à l'endroit des prisonniers dont il veillait au respect des droits. Raison pour laquelle il désignait des représentants de détenus sans tenir compte de leur appartenance ethnique. Une conduite qui irritait certaines autorités, dont le gouverneur de Bubanza, Cléophas Nizigimana, qui a accusé Diomède Diambabagé de ne pas respecter les principes du parti CNDD-FDD, parce que parmi les représentants de détenus figuraient des Tutsis. Et pour concrétiser ces allégations, le gouverneur Cléophas Nizigimana a même convoqué mardi, le 14 avril, une réunion au sein de la prison de Bubanza pour que désormais seuls les Hutus soient des représentants des autres prisonniers, toujours selon les mêmes sources. Mais ces informations insistent pour dire que Diomède Diambabagé est surtout victime de la place de plus en plus prépondérante que Florian Ilangabiye occupait au sein de la prison et de l'attachement que lui portent les autres détenus en raison du grand rôle qu'elle a joué dans le secteur de la santé. Ces sources donnent l'exemple de la période où a sévi une épidémie de la conjonctivité. Selon ces sources, Florian Ilangabiye s'est personnellement occupé du suivi de 142, dont il transmettait quotidiennement des rapports sur l'évolution de l'état de santé. De même, ces informations indiquent que depuis qu'il a dirigé le groupement des agents de la santé communautaire, les médicaments sont devenus plus disponibles et accessibles à tous les patients. Par ailleurs, la journaliste a même lancé une lutte contre les abus sexuels commis sur les mineurs qu'elle a fait dépister contre le VIH. C'est donc tout cela qui a fortement déplu à Pierre Claver Miburo, directeur général des affaires pénitentiaires, jusqu'à démettre Diomède Diambabagé de ses fonctions de directeur de cette prison de Bubanza. Des sources au sein de la Direction générale des affaires pénitentiaires affirmant que le tout est audit dans la discrétion pour que la ministre de la Justice ne découvre pas la vérité. Nous avons tenté de joindre par téléphone Pierre Claver Miburo, le directeur général des affaires pénitentiaires, mais il nous a demandé de le retrouver dans son bureau pour répondre à nos questions. Quant à Cléophas Nizigimana, gouverneur de province à Bubanza, nos tentatives de l'appeler et de lui envoyer des messages WhatsApp ont été toutes vaines.
Aucune raison ne peut expliquer l'empêchement d'un prisonnier de se faire élire pour représenter les autres prisonniers. Anita Gatterese, coordinatrice des projets dans Akat Burundi, fait savoir que ce type de comportement démontre que la persécution à l'endroit de la journaliste Floriane Ilangabiye continue alors que les textes de loi protégeant les prisonniers interdisent la discrimination des prisonniers. On l'écoute.
Akat Burundi est accablé par la discrimination à l'endroit de la journaliste Floriane Ilangabiye qui a été exclue sans explication de la catégorie des détenus choisis pour représenter les autres au sein du groupe des agents de la santé. La direction des affaires pénitentiaires a adressé une demande d'explication au directeur de la prison pour le choix de Florian Ilangabiye. Ceci s'inscrit dans des actes d'intimidation et de harcèlement à l'endroit de la journaliste, comme nous l'avons déjà constaté. Akat Burundi rappelle que la direction des affaires pénitentiaires est tenue au principe de non-discrimination selon respectivement l'article 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et la règle 2 des règles minima pour le traitement des détenus. Le Burundi reconnaît tous ces mécanismes. La direction des affaires pénitentiaires doit veiller à l'intégrité morale et physique de la journaliste Floriane Ilangabiye, car s'il lui arrive quoi que ce soit suite à son harcèlement, la direction des affaires pénitentiaires devra en répondre. Akat Burundi est aussi fortement préoccupé par l'information qu'elle vérifie toujours, selon laquelle la direction des affaires pénitentiaires aurait remplacé les représentants des détenus de l'ethnie Tutsi par ceux de l'ethnie Hutu. Si cette information est vraie, c'est une attitude des autorités à dénoncer, car portant gravement atteinte à l'unité et à la cohésion des différentes composantes de la population burundaise. Si des autorités prennent de telles décisions, le Burundi est loin de retrouver l'apaisement et la réconciliation tant souhaitée par les Burundais pour asseoir une paix durable.
Enfin, pour terminer cette rétrospective, la circulation du café est désormais interdite avant 6h et après 18h et les contrevenants à cette mesure seront pris comme des fraudeurs, seront sévèrement punis conformément à la loi. Cette mise en garde a été faite mercredi par le ministre Prosper Dodiko, ayant l'agriculture et l'élevage dans ses attributions. C'était lors de la présentation des nouveaux dirigeants de l'ODECA, l'Office du développement de la filière café. Le ministre Dodiko a appelé ces nouveaux dirigeants de tout faire pour booster la production du café au Burundi. On l'écoute.
La circulation du café n'est autorisée qu'entre 6h du matin et 18h du soir. Quiconque fera circuler, transporter le café en dehors de 16h sera considéré comme fraudeur et sanctionné conformément à la loi. Les autorités administratives locales doivent veiller à ce que le café cerise ne franchisse pas la circonscription communale lorsque le périmètre de provenance est pourvu de stations de lavage. Nous voudrions rappeler que la lutte contre la fraude du café vers les pays voisins est l'œuvre de tout un chacun. Raison pour laquelle nous lançons un appel vibrant à l'administration, aux forces de l'ordre et à la population en général de rester vigilant pour que le café ne soit pas fraudé vers les pays limitrophes, particulièrement pendant la période de collecte du café cerise. Il est recommandé à l'équipe de l'ODECA de transmettre au cabinet du ministre une note qui précise la proposition de nouvelles mesures et actions nécessaires pour garantir l'atteinte de 4 objectifs majeurs, à savoir augmentation de la quantité du café produit par là, retrouver la première place mondiale sur la qualité du café, comme on l'a observé en 2014, 3, retrouver le circuit officiel de vente directe du café, et enfin, retrouver le meilleur prix du café. Et ce sont ces 4 facteurs qui vont permettre la satisfaction de nos caféiculteurs.
C'est par ici que nous mettons un point final à cette rétrospective de la semaine sur la radio Nzamba Gatika Kawe. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Au revoir.
Ngije Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.